Religion du monde, Geneviève Delru.
C'est à croire que Noël me court après. L'hémisphère nord s'enlise sans bruit dans la pénombre et les effluves de cannelle. Le vent glacial fait teinter les volets. Des images, des saveurs me reviennent. Je me souviens des veillées dans notre petite paroisse de banlieue, du chantre à la voix éraillée, de mes efforts éperdus pour ne pas piquer du nez. Je me souviens d'un vieillard joufflu, tout de rouge vêtu, déposant son offrande au pied du sapin de lumière dans la nuit du 24 au 25 décembre. Chez nous, comme chez beaucoup, la fête chrétienne et les saturnales du marketing coexistaient sans heurts.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre émission est tout naturellement consacrée ce dimanche à ce temps de Noël qui rassemble famille, amis, chrétiens et non-chrétiens. En partenariat avec l'hebdomadaire Le Pèlerin et avec son directeur de la rédaction Samuel Yeven, nous tournerons les pages du numéro double de Noël qui s'intitule « L'espérance qui nous rassemble ». Mais avant, on va écouter quelques contes de Noël tirés du recueil « L'esprit de Noël » publié aux éditions Bayard. Écrivains, essayistes, journalistes, les auteurs ont tous en commun une quête de spiritualité. Ils se sont prêtés à l'exercice de l'écriture d'un conte de Noël. François-Xavier Maigre, rédacteur en chef au Pèlerin et poète à ses heures libres, les a rassemblés et lui-même évoque en préambule du recueil la place qu'occupe Noël dans sa vie.
Depuis ma plus tendre enfance, Noël est une fête qui me parle vraiment au cœur, qui est pour moi le moment le plus important de l'année, peut-être encore plus que Pâques, même si pour les chrétiens... Le match est rude entre Noël et Pâques. Moi, je suis très touché par cet enfant fragile qui naît dans le dénuement d'une crèche à Bethléem il y a 2000 ans de ça. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'ai toujours été aussi très sensible au décorum qui entourait cette fête. Même le côté le plus futile, pourrait-on dire, le plus commercial. Moi, j'y vois une aspiration de l'homme contemporain de s'élever, de rester dans cet émerveillement de l'enfance. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Oui, effectivement, le mot émerveillement est très présent, ou en tout cas cet esprit d'émerveillement est très présent dans le conte que vous avez écrit, ou en tout cas lorsque vous vous livrez vous-même sur Noël, vous dites finalement l'émerveillement, c'est l'antidote qu'offre Noël aux maux du monde.
Oui, en fait, ce livre, il s'est un peu imposé à nous quand on a décidé de le faire avec Bayard. On s'est dit, dans ce temps de pandémie où l'humanité est déprimée, dans ce temps aussi de fragmentation sociale, avec une présidentielle qui s'annonce très dure, avec des débats parfois âpres et violents, on a besoin de quelque chose qui nous rassemble. Et c'est tout le sens de ces contes qu'on a réunis, des auteurs eux-mêmes qui viennent d'horizons culturels, d'horizons intellectuels très divers, qui ont accepté chacun de jouer le jeu en écrivant un conte très singulier, dans lequel il revisite ce thème éternel de la naissance d'un enfant au destin extraordinaire.
Ils se sont rencontrés dans une bibliothèque. À force de se côtoyer d'un livre à l'autre, depuis combien d'années, ils avaient souhaité se réunir, faire plus ample connaissance. C'est ainsi qu'un jour de décembre, ils glissèrent prestement des volumes à tranches dorées rangés sur les étagères et se virent. Pour de vrai. Après les présentations, tous les sept sortirent à pas de velours de la bibliothèque studieuse où s'engouffrait la nuit. Nul ne les remarqua. Allons-nous partir à la découverte du vaste monde comme fit le vilain petit canard ? Demanda Cendrillon. Avec une autorité certaine, le prince déclara : Nous ne devons pas nous disperser. Il nous faut une étoile pour nous orienter, un but élevé, exaltant, afin de rester amis. Un long silence s'ensuivit. Chacun réfléchissait, cherchant où était son étoile. Puis d'une voix timide, Cendrillon annonça à la troupe bariolée. « Moi, je sais où il nous faut aller. Un soir, en tisonnant les braises, j'ai vu une lumière extraordinaire et qui ne faiblissait pas. Elle venait d'un enfant juste né, un roi, ou un être divin. Mettons-nous en route, s'exclama le prince. Notre cœur avisé nous guidera, j'en suis sûr.
Écrivain, auteur de nombreux livres, empreint d'une puissante spiritualité, Jacqueline Kellen a réuni dans ce conte de Noël les personnages des contes d'enfants. Le petit chaperon rouge, le loup, l'ogre, Cendrillon, le prince. Un scénario surprenant pour un conte de Noël, elle s'explique.
Alors, je n'ai jamais écrit de conte, et ça me paraît très compliqué. Et là, d'autant plus que la commande était faite et je devais l'écrire pendant l'été. Donc, je n'étais pas dans l'ambiance neige, sapin, etc., et froid de l'hiver. Mais comme j'ai travaillé sur les contes, comme sur les mythes, je me disais que tous ces personnages qui nous habitent, quelle que soit notre situation, notre âge, notre culture, tous ces petits personnages nous guident vers ce voyage intérieur qui est aussi un voyage d'émerveillement. Je pense qu'il n'y a pas opposition, encore moins contradiction, entre la sagesse des contes et des mythes et la démarche spirituelle. Il y a toujours cette quête d'un au-delà de soi ou d'un plus que soi, d'un amour infini, d'une beauté qui ne finit pas, de quelque chose de supérieur, d'un mystère. Et c'est pourquoi j'avais envie de faire converger tous ces petits personnages vers la quête d'une lumière ou d'un sauveur, d'un enfant merveilleux. Et encore une fois, il n'y a pas de contradiction ni d'opposition. Vous savez, au Moyen-Âge, par exemple, période que j'aime beaucoup, que je connais un peu tout de même, les anges et les fées, j'allais dire, font le même travail. Ce sont des messagers, des intermédiaires, des envoyés du ciel. Et il n'y a pas d'un côté un paganisme pur et dur, anti-chrétien, pas du tout. Il y a une sagesse antéchrétienne, donc antérieure à la venue du christianisme, et puis il y a la sagesse propre à la spiritualité chrétienne. C'est pour ça que je trouvais joli de faire converger, enfin sans dire la suite ou la fin du conte, mais de faire converger en effet tous ces petits pèlerins de la sagesse.
Que représente Noël? Comment vivez-vous le Noël lorsque vous étiez enfant et comment le vivez-vous encore aujourd'hui?
C'est difficile de ne pas dire des banalités sur la fête de Noël, mais pour moi, ce n'est pas spécialement la fête de la famille, des enfants, des cadeaux, des rassemblements, des repas, etc. C'est vraiment un moment de recueillement, d'intériorité, de silence, oui, d'entrer dans la profondeur, d'aller vers le chemin du cœur et d'y trouver sans nul doute l'espérance qui s'éveille. Et mes fêtes de Noël d'enfance, il y avait en effet un repas de famille, mais comme par hasard, je me débrouillais, je dirais, petite fille, pour avoir une angine, donc ce n'était pas très grave, pour avoir une angine quelques jours avant, comme par hasard, et donc pendant que la famille partageait un repas, et moi j'étais tranquille, j'avais mal à la gorge, mais j'étais tranquille dans ma chambre avec un chat et des livres. Tout est dit.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'évite les victuailles, les ripailles et ce genre de festivités extérieures. La messe, pour moi, me paraît en effet importante, mais c'est une fête en effet à partager avec des personnes vraiment qui ont une dimension spirituelle.
Signorino balança sa fourrure au bord du terrain, enfonça sa casquette sur le crâne de Manu et se jeta sur la balle comme un mort de faim. Depuis un lointain quart de finale de Coupe d'Europe, durant lequel il avait semblé danser sur le terrain, Signorino n'avait pas ressenti cette joie si simple, celle de s'amuser, ensemble, de chercher l'autre pour qu'il marque. Le football redevenait la fantaisie des terrains vagues de son enfance où deux t-shirts roulés en boule faisaient un but. Emmanuel riait et les enfants qui les entouraient oublièrent qu'ils jouaient avec un champion. Après le match, ils partagèrent les sucreries allongées dans l'herbe. Signorino enveloppa dans sa fourrure l'enfant qui commençait à frissonner. 10 appels en absence, 3 messages vocaux. Signorino envoya des nouvelles à son attaché de presse et dit « Allez, en voiture Manu, je te ramène à la maison. »
Pierre Adrian a plusieurs passions. L'écriture, ce jeune écrivain à la plume sensible, a été salué à plusieurs reprises par la critique. Et puis le foot et le vélo, il est chroniqueur sportif. Pas étonnant, ce conte de Noël footballistique avec deux personnages, Emmanuel, 11 ans, et Signorino, le footballeur brésilien de 29 ans. Emmanuel, l'enfant du nord de la France, qui a gagné le concours proposé à l'arrière d'une boîte de cornflakes et qui va ainsi passer une journée avec une star du foot. Signorino, que cette obligation professionnelle, dans un premier temps, n'enchantait pas, et il va, avec Emmanuel, retrouver son âme d'enfant. Pierre Adrian.
On a Signorino qui est un footballeur qui joue, on l'imagine, au club du PSG, qui sont des gens en fait qu'on a l'impression de voir depuis toujours, alors qu'ils sont très jeunes, ils ont 25, 30 ans à peine, et qui est obligé par un jeu concours organisé par les sponsors du club de passer une journée avec un jeune fan. Et le jeune fan qui a été choisi, derrière le paquet de céréales, en jouant à ce jeu, s'appelle Emmanuel. Et en effet, il vient du nord de la France, une petite ville, et puis il va vivre son rêve, passer une journée avec un joueur de foot célèbre, un joueur qu'il voit tous les week-ends sans doute à la télévision. D'un côté, l'enthousiasme de l'enfant qui va un peu vivre avec 24 heures dans la vie d'une star. Et de l'autre, un garçon déjà adulte, déjà fait, déjà millionnaire, à qui on impose de passer quelques heures avec un garçon dont il partage très peu, même pas la langue, et puis dans un agenda totalement surbooké, quoi.
Alors, il va se passer quelque chose de très beau, en fait, hein. Tout va basculer à partir d'une chute. Emmanuel, donc ce jeune garçon, manque de tomber. Et puis, eh bien, le footballeur le retient. Et là, c'est comme dans un film, hein, il y a un moment psychologique et ça, tout bascule.
Tout bascule à partir de ce contact-là. Je raconte que la dernière fois, sans doute, qu'il a pris la main d'un enfant, c'est quand les joueurs de foot, vous savez, rentrent sur le terrain au début des matchs. On leur met souvent un enfant dans les pattes. C'est jamais très pratique. On sent que ça les ennuie un peu. Et là, bon, le petit garçon dans la boutique du club, après les signatures de maillots, etc., tombe dans l'escalier et Signorino le rattrape. Et là, voilà, ça tout d'un coup, il se dit mais je viens d'aider un petit garçon à descendre, il garde la main dans la sienne et il se dit je vais jouer le jeu à fond et je vais vivre vraiment cette journée avec ce petit gars sans râler, sans regarder mon téléphone, et les deux vont vivre une aventure un peu en dehors justement des sentiers battus de ce qui était prévu dans cette journée, à savoir la visite du stade, la visite des monuments de la ville, un déjeuner au restaurant du club, etc. Mais ils vont partir dans le bois de Boulogne faire une partie de football.
C'est ça. Et là ils retrouvent le bonheur de l'enfant qui joue. C'est plus la star mondiale, c'est le bonheur du gamin qui joue. Comme quand il était jeune, quand il était pauvre, au Brésil.
Ce qui est son métier, tous les week-ends, devant des milliers de personnes et devant des dizaines, des centaines de milliers de téléspectateurs, est devenu en fait une routine, quelque chose. Là, tout d'un coup, sur un vieux terrain où, pour but, on a mis un pull et un manteau, avec des jeunes qui sont là, qui jouent dans un vieux ballon en cuir, et tout d'un coup, il va retrouver ce qui l'a fait devenir aussi footballeur, quoi, son talent, la grâce et le plaisir de jouer, la joie d'un ballon, la joie simplement qu'est la joie du foot, qui est de se retrouver avec des amis, avec des copains et de tirer dans un ballon de foot. C'est comment une petite chose, comment un regard, une main tendue, comment une partie de foot peut nous faire retourner un peu dans l'enfance. Et j'ai trouvé que c'était un conte de Noël assez significatif, puisque voilà, c'était Noël, c'est la joie de l'enfance. Et chaque devoir d'un adulte, quand vient le temps de Noël, c'est retrouver l'esprit d'enfance. Et c'est vrai que je pense que c'est un grand combat toute la vie de garder une âme d'enfance, de garder un petit peu de l'esprit de l'enfant qu'on a été.
Vous pensez que Noël, la fête chrétienne, contribue à cela ?
Moi, je le vis comme ça. Je vis Noël comme un effort. Je suis pas forcément... Les fêtes m'ennuient. Je préfère toujours aller me cacher quand il y a des grandes fêtes, notamment des grandes fêtes religieuses. Mais je trouve que Noël, plus que jamais, c'est la célébration de l'enfant. C'est quand même l'enfant qui naît et qui vient sauver le monde. Et je pense que, oui, la joie que l'on donne à un enfant à Noël, c'est ça qui nous rend le plus heureux. Moi, je n'attends rien d'autre de Noël, sinon de donner de la joie aux enfants avec qui je peux être à ce moment-là.
Objet central du conte de Noël d'Olga Lowski, un couteau familial, un couteau à manche d'ébène qu'une grand-mère au soir de sa vie et un soir de Noël va donner à son petit-fils. Olga Lowski, romancière française et théologienne, est issue d'une famille d'émigrés russes arrivée à Paris à la suite de la Révolution. Avant de l'entendre sur l'écriture de ce conte, elle nous parle des Noëls de son enfance.
Alors Noël, je dirais que chez nous, la célébration de Noël est très marquée par la tradition orthodoxe. Donc avec des célébrations qui sont assez longues, assez prenantes, J'ai des souvenirs enfants de célébrations nocturnes interminables où on finissait toujours par s'endormir, mais il y avait un côté un petit peu féerique parce qu'on savait que nous attendait après au milieu de la nuit les agapes, les cadeaux. Donc, cette dimension très festive qui était marquée en premier par cette célébration très longue. Et puis au fil du temps, cette célébration, elle m'a ouvert vraiment sur le sens profond de Noël. Et c'est vrai que dans la tradition orthodoxe, la fête qui ressort vraiment, c'est Pâques. Mais quelque part, Pâques commence à Noël. Et cet enfant qui vient au monde, il vient au monde pour mourir comme un homme et pour ensuite ressusciter tout le monde à sa suite. Donc c'est là où la grande aventure de l'incarnation commence. C'est vraiment ça que moi, je retiens des offices byzantins de Noël.
Ce conte de Noël, vous l'avez construit autour d'une histoire de couteau à manche d'ébène.
Alors le couteau à manche d'ébène, c'est un petit objet qui cristallise un petit peu toute la narration. Moi, j'aime bien écrire à partir d'objets, en fait. Je trouve que les objets ont une histoire et permettent de tisser différentes vies. On peut comme ça aller d'une situation à l'autre et par des petites choses concrètes, susciter de l'émotion. Et donc ce couteau, c'était un très beau couteau qui appartenait à une noble famille russe de Saint-Pétersbourg avant la Révolution. Il est parti dans une valise au moment de la Révolution et au fil des remoulages, ce couteau est devenu tout petit. Et au lieu de servir à désosser des grandes pièces de viande dans des magnifiques salles à manger de palais pétersbourgeois, il s'est retrouvé dans des cuisines mansardées du Paris de l'entre-deux-guerres. Donc en fait, ce couteau, il symbolise toute l'histoire d'une émigration qui est passée d'un contexte très fastueux de la noblesse russe d'avant la Révolution à la misère de l'émigration qu'ont vécu les Russes en exil à Paris.
Ce couteau, ce soir de Noël, ça veut dire quoi exactement là? Quel est le message de ce couteau, ce soir de Noël?
Alors ce couteau, il symbolise un petit peu toute la vie passée d'une vieille femme au soir de sa vie, qui a vécu la tourmente de l'exil, et puis toute la mémoire traumatique de ses parents qui, eux, ont vraiment ont vécu ça de plein fouet. Et donc elle arrive au soir de sa vie avec la volonté d'un petit peu distribuer ce qui a été à elle, notamment ce couteau qu'elle va léguer à son petit-fils, qui est devenu comme un petit couteau de dinette, en fait. Et pour elle, c'est un symbole très fort, puisque ça symbolise vraiment les années de famine pour elle et les moments très durs qu'elle a pu connaître dans sa vie. Donc il y a cette transmission symbolique vers une autre génération de ce couteau qui a toute une histoire autour de laquelle cette femme va connaître un fort revirement intérieur à la faveur d'une soirée de Noël.
Est-ce que l'on peut dire, Olga Lowski, dans ce conte de Noël, que ce couteau symbolise finalement une forme de renaissance ?
Oui, ce couteau, il est un petit peu le symbole d'une dimension cyclique de l'existence, cette dimension de réitération, de naissance, maturation, vieillesse, mort. Donc cette dimension cyclique, elle peut avoir quelque chose d'un petit peu désespérant. On a l'impression de ne pas en sortir d'une génération à l'autre. Mais quelque part, le couteau, c'est comme un point d'arrêt qui marque l'irruption d'une autre dimension dans cette réalité cyclique, une dimension que je pourrais appeler verticale, qui élève vers autre chose, notamment dans cette relation entre la grand-mère et ses petits-enfants, où là, on va avoir une transmission qui, quelque part, éclate la dimension cyclique des générations.
Et nous refermons ce recueil de contes, L'Esprit de Noël, publié aux éditions Bayard avec l'écrivain suisse d'origine turque séfarade, Metin Arditi. Écrivain de l'intime, auteur fécond, impliqué dans la promotion de la culture et dans le dialogue interculturel, Metin Arditi signe un conte de Noël décalé qui met en scène les quatre évangélistes, le premier Noël après la mort de Jésus. Metin Arditi.
C'est un conte de Noël dans le sens où il y a les quatre évangélistes qui se retrouvent le premier 24 décembre après la mort du Christ, et donc c'est un conte de Noël, mais en même temps, le sujet sur lequel il s'écharpe, c'est la résurrection, et c'est donc un conte de Pâques, et on pourrait presque dire qu'il y en a deux pour le prix de un, parce qu'effectivement, la substance, ce sont les divergences qu'il y a dans les quatre évangiles à propos de la résurrection. Et ça, c'est un sujet qui m'est très cher depuis longtemps. Dans le conte, ces quatre évangélistes s'écharpent à propos de l'interprétation, et il y a Samy, l'aubergiste, qui a la cinquantaine, qui n'a pas eu le temps de se marier, et qui raconte qu'il aimait, au fond, d'accord entre eux en racontant son quotidien. Et qu'est-ce que c'est que son quotidien ? Bien, il se lève le matin, il est content, et il nettoie son auberge. Ensuite, il s'occupe de ses animaux. Et c'est ça, la résurrection. C'est chaque jour.
Noël, pour vous, c'est quoi exactement ? Et c'était quoi dans votre famille ?
Alors, dans ma famille, qui était juive laïque, on a toujours fêté Noël. À Istanbul, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans, nous fêtions Noël chez des amis qui étaient chrétiens, catholiques, et c'est toujours une fête importante, on se réjouissait, on se retrouvait très nombreux. Ensuite, j'étais pendant 11 années en internat. Pendant les fêtes de Noël, il y avait très peu d'internes qui restaient là, ceux dont les parents étaient très éloignés, et donc il n'y avait pas de cadeaux. C'était la directrice qui nous donnait une orange ou deux oranges, c'était ça. Mais quand même, on était entre nous, oui, il y avait une fraternité qui s'établissait d'elle-même.
Vous n'étiez pas triste ?
Hélas, non. Je n'étais pas triste. Ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps. Et je n'étais pas triste, par exemple, quand je voyais ma mère un mois par an, le deuxième mois d'été, les vacances de Noël, de Pâques, et un des deux mois d'été, je l'ai passé à l'école. Je la voyais un mois par an, et quand elle me ramenait à l'école, fin août ou début septembre, elle pleurait, et je ne comprenais pas pourquoi, et moi, je n'étais pas triste. Et j'aurais mieux fait de l'être, et j'aurais mieux fait de pleurer, moi aussi. Ça m'aurait rendu moins désagréable. J'essaye depuis de faire des progrès. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Parce que vous êtes dans un environnement qui est le seul que vous connaissez. C'est ça le point. Dans la vie d'internat, donc 11 années, il y avait dans le village où il y avait l'internat, il y avait des enfants qui habitaient là, qui étaient avec leur famille. Nous les voyions de loin, nous les méprisions, parce que nous étions beaucoup plus rudes qu'eux, beaucoup plus. Nous étions d'animaux sauvages. Et puis, en même temps, nous les considérions comme, en fait, des marginaux. C'était leur monde qui n'était pas le vrai monde. Le vrai monde, c'était le nôtre.
Donc, ça vous a fait porter un regard différent sur Noël par rapport à la multitude, j'allais dire ?
Disons que j'en ai gardé un grand attachement. C'est bizarre. Parce que nous étions peu, il n'y avait pas vraiment de cadeaux, de fêtes, etc. Mais il y avait une fraternité. Et ensuite, quand je me suis marié très jeune. Je me suis marié à 21 ans, parce que je n'avais pas grandi en famille. Et ce n'est pas très compliqué à expliquer.
Non.
Et avec une femme qui est toujours la mienne, qui est grec-orthodoxe. Elle n'avait pas une grande habitude de Noël, parce qu'en Grèce, c'est Pâques. Noël est quelque chose d'assez nouveau en Grèce. C'est venu avec les Américains, quand ils sont venus après la Deuxième Guerre. Sinon, les fêtes en Grèce, c'est assez... on ne fête pas les anniversaires, on fête le nom, l'onomastico, et on fête Pâques surtout. Mais moi, j'avais gardé ce goût de Noël, et donc nous continuons à fêter Noël. Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais... Donc, pendant des dizaines d'années, j'étais le Père Noël. Je me déguisais, toujours le déguisement à la maison. Ma femme mettait du blanc, des barbes, tant que vous voulez, des sourcils énormes, blancs. Et je prenais, pour pas qu'on me reconnaisse, d'abord mes enfants, puis mes petits-enfants, je prenais toujours des accents pour masquer ma voix, et je racontais que le vrai Père Noël avait besoin d'assistants parce qu'il ne pouvait pas être partout, et donc moi, il m'avait trouvé. Alors une fois c'était en Russie, une fois c'était en Afrique, une fois c'était en Suisse allemande, et je prenais toujours un accent qui me permettait de tricher. Ça marchait avec les enfants. Ensuite, avec les petits-enfants, j'en ai 7, donc ça a marché pendant un certain temps. Et puis, j'ai compris un jour que pour pas me faire de la peine, ils avaient tout très bien compris, mais ils faisaient semblant de ne pas m'avoir découvert. Donc voilà, Noël, c'est ça. Et évidemment, il y a eu une mode pendant un certain temps de critiquer Noël, qui est devenue une fête païenne, commerciale, etc. Je trouve ces propos tout à fait déplacés. Parce que, d'abord, c'est le moment où on fait des cadeaux. C'est important le cadeau, c'est important le don. Aller chercher pour quelqu'un un cadeau en faisant les magasins, où est-ce qu'on peut l'acheter, où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, vous me direz, on peut le fabriquer.
Vous voulez dire qu'en fait, derrière tout cela, il y a une forme de spiritualité qui ne dit pas son nom?
Absolument, il y a un partage. Moi, je me souviens d'avoir étudié le processus de réconciliation en Afrique entre les Hutus et les Tutsis. C'est très intéressant, c'est très touchant. Ce sont des gens qui se sont... Enfin, les uns ont massacré les autres, qui étaient souvent des voisins, des amis. Comment est-ce qu'ils se réconciliaient? D'abord, ils mettaient tout sur la table. Il n'y avait rien de caché. Ensuite, ils dansaient. Et ensuite, ils se faisaient des cadeaux. Des petits cadeaux, des bananes, une bouteille de bière. Mais le cadeau était essentiel. Bien sûr qu'il y a un aspect commercial, parce qu'il faut bien que les gens qui fabriquent des cadeaux gagnent leur vie, ou ceux qui les vendent.
Ça n'a rien de honteux, bien sûr.
Ça n'a vraiment rien de honteux. Tant mieux pour tout le monde. Et je crois que la vérité, elle est dans le chemin vers l'absolu passe par autrui. On ne peut pas faire l'économie de ce passage. Et si on fait l'économie de ce passage, on n'est pas dans la vérité. On n'est pas sur la bonne voie. Donc voilà, on est déjà chez autrui, on écoute autrui, on fait plaisir à autrui, on se retrouve. Des fois, il y a des dîners de Noël qui tournent mieux que d'autres. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'humanité moyenne. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Bon, voilà, et puis ça fait aussi partie du processus d'auto-nettoyage. Voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est la vie. Mais en tout cas, ça mérite quand même qu'on se retrouve. Parce que si on ne se retrouve pas, alors c'est pire. on peut dire que c'est la moins mauvaise des solutions, c'est de se retrouver.
Métine Arditi, dont on peut lire le conte de Noël dans le recueil L'Esprit de Noël, publié chez Bayard, auquel ont contribué d'autres auteurs, parmi lesquels Franz-Olivier Gisbert, Christiane Rancé et Alexis Génie, pour ne citer qu'eux. Présent avec Samuel Lieven, directeur de la rédaction de Pèlerin, nous allons tourner quelques pages du numéro double de Noël. Samuel Lieven, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient de parler de ces contes de Noël, de l'esprit de Noël. Vous, dans ce numéro double du Pèlerin, vous avez voulu mettre en relief l'espérance qui nous rassemble, tout ce qui nous rassemble.
C'est vrai qu'on vit déjà en permanence dans une société sous pression. On l'est encore un peu plus, avec quasiment deux ans de pandémie. Donc, toutes les raisons de stresser, d'être sous pression sont vraiment là. Et puis, finalement, Noël, ça raconte quand même l'histoire vraie pour beaucoup de gens. Je parle des chrétiens en particulier, d'un enfant qui est né dans un monde aussi sous haute pression. Du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que au moment de Noël, on se retrouve quand même tous malgré cette pression, malgré toutes ces occasions aussi d'être malheureusement séparés de ses proches, mais aussi tendus les uns vis-à-vis des autres. On l'a entendu parler tout à l'heure de l'élection présidentielle qui s'annonce dure. On a aussi une situation internationale qui se durcit autour de pas mal de pays, la Russie, la Chine, l'Amérique latine.
La question migratoire,
oui. Évidemment. Donc tout ça, c'est des choses qui nous travaillent au quotidien. Et donc là, l'idée, c'est de comment est-ce qu'on peut tous se retrouver au-delà même d'être chrétien ou de ne pas l'être. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on va se rassembler? Et puis on se retrouve du coup autour de plaisirs comme ceux d'abord de partager un repas Il n'y a rien de plus humain que de partager d'abord un repas. C'est la première des choses. Donc on a proposé beaucoup de rendez-vous culinaires,
beaucoup de recettes, oui.
Rencontrer des grands chefs aussi qui nous accueillent chez eux, qui montrent des aspects de leur personnalité qu'on ne connaissait pas forcément. Je pense à Grégory Cuiron qui nous a accueillis chez lui à Lyon. On a également mis à contribution nos propres lecteurs qui nous racontent les histoires autour des recettes de famille. On en a fait un cahier détachable
central, oui.
Voilà, qu'on a fait en plus en partenariat avec le magazine jeunesse Astrapi, qui est aussi du groupe Bayard, pour rendre ça intergénérationnel. Comment les grands-parents et les petits-enfants peuvent-ils se retrouver autour d'un bon plat et quelle histoire ça raconte ?
Le Noël fédérateur. Alors, effectivement, quelques affiches, si je puis dire. Il y a ce restaurateur lyonnais. Il y a également ce musicien, André Manoukian, qui est d'origine, on l'a compris, arménienne, pour qui la musique, vraiment, c'est un vecteur de paix.
Voilà, et ça, c'est vraiment le message central qu'il délivre dans cette interview, où l'on voit en fait que la musique, elle rassemble, elle transcende toutes ces différences culturelles. Et puis en plus, de manière très, très drôle, très, très détendue, il nous fait un cours de musicologie à travers les âges. On s'aperçoit en fait que la musique plonge ses racines en Orient et que finalement, toutes les cultures communient dans ce même berceau oriental et ça permet en fait, il montre à quel point au fond il n'y a pas de frontière à la musique et que le musicien c'est un peu comme le pèlerin, c'est quelqu'un qui avance et puis qui fait feu de tout bois, qui fait feu de toute note et c'est vraiment le plus bel antidote justement à ces tensions, ces séparations dont on parlait au début.
Absolument, vous évoquez effectivement la musique venue d'Orient et il y a un passage très intéressant dans cet entretien dans lequel il raconte que les chants chrétiens, en fait, sont issus des chants des synagogues, lesquels sont issus des chants des prêtres
égyptiens.
Ça, c'est passionnant, ça.
C'est, voilà, exactement. On montre que tout ça s'enchasse en réalité et part comme un peu comme une poupée gigogne du berceau oriental et que finalement, c'est la manie occidentale, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais pour le meilleur aussi, de tout codifier, oui. Qui a donné naissance aux chants grégoriens et donc à une manière d'appréhender la musique beaucoup plus écrite, formelle, et que quelque part Jean-Sébastien Bach, puis le jazz est venu réinterroger, re-questionner en ouvrant à nouveau les portes et les fenêtres et puis tout ça pour le meilleur des mélanges. Et donc on voit bien qu'à travers la musique, au fond, c'est toute une allégorie de l'humanité brassée à l'infini et c'est magnifique de redécouvrir ça.
Oui, c'est un grand fan de Jean-Sébastien Bach, hein, précisément. Alors, bien sûr, vous êtes aussi classique, hein, dans ce numéro double. La peinture, Botticelli, ce peintre de la Renaissance italienne et sa fameuse Vierge à l'enfant.
Alors ça, c'est évidemment un clin d'œil à l'exposition en ce moment qui est au musée Jacquemart-André. Et donc, c'est aussi, parmi ce qui nous rassemble, hein, on a cité la cuisine, on a cité la musique, eh bien, c'est la beauté, tout simplement, de redécouvrir ces grands chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui, tout simplement, du patrimoine de l'humanité. Et comment porter un regard toujours renouvelé sur ce mystère d'un enfant dont la naissance vient déjouer, finalement, les scénarios les plus prévisibles, les plus attendus, et voilà, et le faire à travers des œuvres d'art qui sont aujourd'hui notre patrimoine commun à tous.
Alors Samuel Lieven, évidemment, pour Religion du Monde, hein, j'ai relevé le dossier « Ma foi, ta foi, notre fête », rencontre avec quatre couples mixtes. Ils s'appellent, alors il y a Ali qui était marié avec Laurence, Farid avec Béatrice, Nasser avec Céline, et Jamel est marié avec Agnès. Comment fait-il Noël tous les quatre? C'est, bien sûr, on a compris, ce sont des couples islamo-chrétiens.
Voilà, et là, ce qui est intéressant avec cette rencontre, c'est qu'on entre dans le vrai. On n'est pas simplement dans le vrai du dialogue qu'on appelle souvent interreligieux, islamo-chrétien, et c'est nécessaire de l'explorer au plan théologique, avec à grand renfort de colloques et de rencontres. Mais là, on est dans l'intime. On est dans le réel de la vie quotidienne, familiale. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Et là, c'est magnifique parce qu'on se rend compte que cette fête qui devient de plus en plus une fête de la famille, même si elle plonge ses racines au départ dans des pratiques culturelles d'avant le christianisme, christianisme, puis elle est chrétienne évidemment, mais elle est aussi de plus en plus familiale, et on se rend compte que les petits efforts que font les uns les autres pour montrer que, ben voilà, moi, si je viens au départ d'une famille musulmane, je suis marié avec une chrétienne, je veux montrer à mon épouse, à mes enfants que je suis ouvert à ce qu'ils sont, je veux aussi rassurer mes propres parents que je ne renie pas non plus qui je suis, et on voit que comment au quotidien, autour de la crèche par exemple, ou de la messe, j'y vais pas, ou alors comment tout le monde peut se retrouver, chrétien, musulman ou athée, autour du repas, comment finalement on se rejoint autour de l'essentiel, c'est-à-dire être ensemble, au-delà, encore une fois, des différences d'appartenance.
Au-delà des différences, alors même si c'est pas forcément toujours tout simple, bon, le sapin, bon, même si effectivement il y a quelques polémiques à l'extérieur dans l'espace public, bon, le sapin, ça pose pas de problème en famille, en tous les cas. La crèche, ça peut être plus délicat quand même.
Alors la crèche, on sait, dans l'espace public, c'est un peu plus délicat, et donc en famille, comment ça se résout? Ben là, par exemple, on a une famille qui nous raconte qu'on la met discrètement sur un châssis de fenêtre, et comme ça, quand le mari qui est musulman veut faire sa prière, eh ben, il peut pousser légèrement le rideau, et il se retrouve finalement dans un lieu qui est cohérent pour lui-même. Mais il y a quand même ce signe que, voilà, on est dans une famille où on laisse aussi chacun, à un moment donné, se nourrir. C'est pas non plus privé de sens, encore une fois, les signes chrétiens ou la religion musulmane. Il faut que chacun puisse préserver ce qu'il est, et puis en s'abandonnant aussi, au fond, à ce mystère et à cette liberté de qui deviendra-t-on.
La messe de minuit, problématique ou pas? Semblerait que non.
Non, pas franchement problématique. C'est-à-dire qu'il y a l'un des couples, par exemple, où le mari musulman est allé à plusieurs reprises. Ensuite, il n'y est plus allé. Mais en revanche, il prépare la maison pour le retour de tous ceux qui y sont allés. Parce que ce qu'on retient, au final, c'est la fête. C'est le fait de se retrouver. Et donc, ben voilà, il éprouve finalement plus de joie, tout simplement, de sens et de joie à préparer l'après.
À accueillir ceux qui vont revenir.
À accueillir ceux qui vont revenir.
Voilà. De la messe. Alors, le menu, parfois, il y a des petits couacs, on va dire.
Oui, des boudins blancs.
La belle-mère qui a oublié, voilà. Qui propose des boudins blancs.
Des boudins blancs qui se baladent au moment où les musulmans sont invités. Mais voilà, encore une fois, il y a de la bonne volonté des deux côtés. Il y a aussi des maladresses. Mais comme là, effectivement, on n'est pas sur la scène internationale, dans des rencontres interreligieuses sous haute tension, on arrive toujours à trouver une manière de se retrouver. Voilà.
Alors, un dernier mot sur ce numéro double de Pèlerin, Samuel Lieven, eh bien, c'est, j'allais dire, la partie écolo de ce numéro double, à savoir des cadeaux utile pour la planète.
Exactement.
Enfin, qui préserve la planète, plus exactement.
Alors, et là, c'est une nouvelle fois, finalement, ce qui nous rassemble, c'est ce souci de plus en plus partagé de sauver notre maison commune, comme dirait le pape dans l'encyclique Laudato Si. Et là, l'idée, c'est effectivement comment passer Noël sans nécessairement acheter neuf, sans nécessairement être pieds et poings liés par les grandes plateformes de livraison, et puis en essayant aussi d'emballer intelligemment, d'avoir recours aussi à des produits entièrement naturels, notamment la cosmétique qui fait d'énormes progrès. Et on a aussi noté, donc, au cours de cette petite enquête, que aujourd'hui 72% des jeunes seraient prêts à accepter un cadeau qui ne soit pas neuf, en fait, qui soit un objet d'occasion, de seconde main. Et ça, c'est un vrai basculement.
Un vrai progrès. Merci Samuel Lieven. Donc je rappelle, ce numéro double de Pèlerin à propos de Noël, intitulé « L'espérance qui nous rassemble ». Merci.
Merci à vous.
Ce qui nous rassemble, eh bien, ça pourrait être aussi la devise de Dominique et Geneviève, ce couple de physiciens à la retraite, parents de 6 enfants, dont 3 adoptés, très impliqués dans la vie associative, dans leur paroisse du Plessis-Robinson, au CCFD Terre Solidaire, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Ils accueillent depuis 2 ans, dans le cadre du programme Welcome du GRS, le service jésuite des réfugiés, des migrants. Le principe de Welcome, c'est l'hébergement pendant 6 semaines au sein d'une famille, cela pendant une année, le temps de s'insérer dans la société française. Ce week-end de Noël, c'est Djibril, un jeune de la Sierra Leone passionné de foot qui participera aux agapes familiales. Et le week-end dernier, Dominique et Geneviève ont accueilli les jeunes qui sont venus chez eux au cours de l'année 2021. Alors comment s'est passé depuis 2 ans l'accueil de ces jeunes ?
Alors, on a eu 7 garçons et une fille. Et bon, ben, ça se passe très bien. Ils restent en gros 6 semaines. Et donc, ils partagent notre vie pendant ces 6 semaines, le plus possible. Et bon, certains sont plus indépendants que d'autres. Donc, on s'adapte à leur fonctionnement.
Ça veut dire que vous prenez les repas ensemble ?
Oui, on prend le plus possible de repas ensemble, suivant leurs souhaits. Ils ne sont pas obligés, mais il y en a qui bougent plus que d'autres. Donc, ce n'est pas vraiment fixe le nombre de repas, mais on est toujours content de ce moment partagé.
Alors, vous êtes une grande famille, puisque vous avez eu donc 3 enfants, auxquels sont venus s'ajouter 3 autres enfants adoptés. Pour vous, ça fait partie de votre vie, de cette ouverture, ces jeunes à la maison. Vous êtes aujourd'hui retraité. Inconcevable de ne pas, voilà, d'être uniquement entre vous.
Ah oui, ça, je crois que ça serait très difficile d'être seulement entre nous, parce que bon, bah, il y a toujours eu une ouverture avec les nombreux enfants, les amis des enfants, les différentes familles d'origine des enfants qu'on a élevés. Donc, aucun problème pour nous, l'ouverture est naturelle.
Dominique.
Oui, il faut dire aussi qu'on a eu la chance que, du côté de nos parents, aussi bien du côté des parents de Geneviève que de ma maman, cet accueil a été accepté sans problème.
Et du côté de vos enfants ?
Ah ben, parfaitement, oui, parce que ils étaient en attente d'un petit frère. Il y en a plus qui sont arrivés, mais bon, tout s'est très bien passé.
Alors, pour Noël, donc, cette période de Noël, il y a donc eu le week-end dernier tous ces jeunes que vous avez réunis, les jeunes du GRS que vous avez réunis, qui ne se connaissaient bien sûr pas, hein, puisqu'ils sont venus les uns après les autres. Et puis, donc, pour ce week-end de Noël, eh bien, il y a Djibril. Djibril, alors racontez-nous Djibril. C'est un garçon qui vient de la Sierra Leone, il a 20 ans et c'est un footballeur.
Ah oui, il est passionné de foot et il circule beaucoup en Ile-de-France entre les entraînements, les matchs. Il a pas mal d'amis dans le milieu du foot. Enfin, il est très épanoui et tout naturellement, il s'intègre à la famille. Il a déjà rencontré certains de nos enfants. Donc, il est tout à fait partant pour être là le jour de Noël.
Alors, précisément, Djibril est musulman. Alors, comment ça se passe pour les repas ? Vous évitez, bien sûr, je suppose, le porc.
Bon, on évite le plus possible de manger du porc quand il est là. Mais il peut arriver que, nous, on ait du porc à manger. Et à ce moment-là, on lui donne autre chose. Et ça se fait aussi tout naturellement. Il n'y a aucun souci. Et évidemment, pour Noël, nous avons prévu du canard. Donc, ça pouvait convenir à tout le monde, les musulmans et les chrétiens.
Est-ce que Djibril, il y a un petit cadeau qui est prévu pour Djibril ?
Ah oui, certainement. Oui, Djibril aura eu son petit cadeau.
Vous parlez de religion ensemble, que vous parlez de quels sont vos échanges ? Est-ce que Djibril, par exemple, parle de ce qu'il a conduit en France ? Est-ce que vous posez des questions ou au contraire, vous êtes sur une forme de réserve ?
C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions a priori, mais si dans la conversation certains éléments apparaissent, on essaie de creuser un petit peu sur les modes de vie, sur ce qu'ils mangent. L'autre jour, on a eu un gros échange sur tous les fruits qu'il y a en Sierra Leone. Enfin, mais en ce qui concerne leur vie personnelle, si eux ne se livrent pas d'eux-mêmes, nous ne posons jamais de questions.
Est-ce qu'après, donc, comme vous l'avez fait le week-end dernier, donc vous avez réuni tous les jeunes que vous avez reçus au cours de l'année 2021, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que systématiquement vous gardez un contact avec les jeunes que vous avez reçus ?
Oui, on essaye de garder contact. En fait, on n'en a pas parlé, mais ces jeunes qui vont de famille en famille pendant à peu près 9 mois, un peu moins d'un an, ils sont suivis par une famille ou une personne qui les suit de la première famille, où ils vont jusqu'à la dernière. Et donc, nous avons eu cette expérience d'avoir été invités par une de ces personnes avec les différents accueillants et les différents accueillis. Et c'est quelque chose de très chouette.
Donc, des familles comme vous qui ont reçu, par exemple, Djibril, il partira dans une autre famille après. Et donc, vous rencontrerez un jour, probablement, la famille
qui va le recueillir, qui va le...
C'est pas impossible.
Après vous.
C'est possible, oui. Et d'ailleurs, dans notre quartier, nous avons deux couples d'amis qui sont aussi accueillants de JRS. Et il est arrivé que les accueillis aillent chez eux, puis chez nous, ou l'inverse. Donc, géographiquement, c'était pas mal pour eux parce qu'ils restaient un petit peu dans la même zone. Et donc, on a pu avoir des échanges avec ces familles-là.
Alors JRS, donc le service jésuite des réfugiés, le CCF des Terres solidaires, le Comité catholique contre la faim et pour le développement dont vous êtes membre, le Secours catholique également, ça fait partie de votre vie de foi de recevoir ces jeunes, Geneviève ?
Alors, je ne sais pas si c'est ma vie de foi. Je pense que c'est plutôt de l'humanité, oui. Tout simplement. Là, je ne dirais pas que c'est ma foi qui me guide, mais effectivement, on se sent peut-être conforté dans nos choix parce que nous vivons au niveau du CCFD, des paroisses, etc.
Il faut reconnaître que même si ce n'est pas dans tous les domaines, on a avec le pape François quelqu'un qui a une position vis-à-vis de l'immigration dans laquelle on se retrouve tout à fait.
Parmi les échanges que vous avez donc avec ces jeunes que vous recevez, Geneviève et Dominique, est-ce que vous évoquez la question de la religion ? Dominique ?
C'est assez exceptionnel, mais on a eu un cas un peu particulier. On a eu un jeune qui venait d'Afghanistan, qui était remonté très fortement contre ce que l'islam représentait en Afghanistan. Et donc, j'étais amené à discuter avec lui de l'islam pour essayer de lui montrer que dans l'islam, il y avait des valeurs aussi importantes que celles qu'on a dans le monde chrétien, et simplement que ces valeurs n'étaient pas mises en évidence dans l'expérience qu'il avait eue en Afghanistan.
Est-ce que vous pensez que vos enfants, effectivement, feront la même chose que vous ?
Alors ça, c'est une bonne question. On a parmi nos enfants, il y en a plusieurs qui sont très, très ouverts du point de vue de l'accueil des migrants. Il y en a une à Nantes qui est très investie auprès de mineurs isolés. Il y a des choses qui se passent de toute façon. Hein, mais alors, entrer dans le même système que nous, probablement pas. Mais ils ont plein de choses à imaginer et on leur fait confiance pour ça.
Oui, on a un de nos enfants qui habite Montreuil. Il n'y a pas besoin d'insister beaucoup pour savoir qu'à Montreuil, le problème de l'immigration, mais c'est vécu tous les jours et dans la simplicité.
Est-ce qu'avec Djibril, par exemple, vous avez parlé du drame de Calais, de ces personnes qui ont péri, noyées dans les eaux de la Manche?
Alors, ça ne s'est pas vraiment présenté. On n'en a pas encore parlé parce que Djibril est là depuis 2 semaines et que, je pense que les choses vont peut-être arriver dans la conversation, mais pas tout de suite. Je pense qu'il avait besoin de prendre ses marques ici. On n'a pas trop insisté pour avoir des discussions plus approfondie, mais ça va peut-être se faire avant son départ.
Oui, en fait, certains des jeunes qu'on accueille, je pense que Djibril est arrivé directement par avion, mais par contre, on en a rencontré qui ont traversé la Méditerranée et qui ont été assez traumatisés par cela. Et puis, nous avons rencontré, mais hors JRS, si on peut dire, un jeune que le Secours catholique nous a demandé d'héberger pour faire une formation à l'INALCO, une formation à la fois de traducteur et de médiateur-interprète. Et avec lui, on a beaucoup discuté de cette situation, des drames dans la Méditerranée. Voilà.
Chez vous, les Noëls sont toujours joyeux, on peut le supposer, non ?
Oui. Chez nous, les Noëls sont joyeux parce que tout le monde se retrouve et en fait, on est dans la joie et on espère pouvoir faire partager cette joie de Noël à Djibril.
Oui, tout à fait. Puis on a beaucoup de chance parce qu'on a des enfants qui sont merveilleux aussi.
Merci beaucoup. Merci. Bon Noël.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Véronique Durand, Budivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain et vous souhaitent un joyeux Noël.